Bonjour à tous et bienvenue à votre RCMAG, le libre cours de Radio Courtoisie. Je reçois aujourd'hui Magélia, une voix libre et engagée hein, qui ose dire tout haut ce que de nombreux Français pensent tout bas, chroniqueuse donc sur les réseaux sociaux, hein, elle est également membre du collectif Les Citoyens Patriotes, où elle défend avec courage les valeurs, l'identité et les traditions de notre pays. Avec son franc-parler, son humour et sa lucidité, Magélia ne mâche pas ses mots hein, face à l'effacement progressif de la France, hein, aux réalités que beaucoup préfèrent ignorer et aux dérives qui touchent notre quotidien. Je vais aborder avec elle l'actualité qui interpelle hein, son parcours, son regard sur notre société et surtout les raisons d'espérer un réveil français. Magélia, bah écoutez, merci d'être à nouveau dans mon émission sur Radio Courtoisie.
Merci, bah merci de me recevoir Jean-Étienne, merci beaucoup, ça est toujours un plaisir.
Eh bien écoutez, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, hein, parce qu'il y en a forcément, quel a été le déclic qui vous a poussé à devenir cette voix si libre et si écoutée sur les réseaux?
Alors, moi, ça a été vraiment assez soudain, parce que je ne m'y attendais pas du tout. C'était pendant le confinement. Le confinement, enfin, surtout l'après-confinement. Parce que pendant le confinement, j'ai commencé à faire des petites vidéos un peu sur TikTok, parce que je m'ennuyais. Donc, j'ai des garçons qui sont assez grands, donc on faisait des petites vidéos comme ça. Et puis, j'ai commencé à un peu pester par rapport aux pseudo-mesures. Hein, où il fallait s'auto-signer des attestations pour sortir le chien,
ou
un coup il fallait être assis debout couché comme on veut dans les bars, les plages dynamiques où on n'avait pas le droit de s'asseoir. Enfin, vraiment, je trouvais toutes ces mesures complètement débiles. Et puis j'ai vraiment commencé à éclater sur les réseaux parce que moi j'ai refusé de me faire injecter la soupe, notamment. Moi, après voilà, chacun était libre. Ce que je n'aimais pas, c'était ce côté où on était traités comme des parias et où on nous traitait vraiment comme des pestiférés. Hein. Limite, on m'a dit que j'allais tuer ma grand-mère si je ne me faisais pas vacciner. Enfin, c'était vraiment une époque un petit peu quand même très bizarre.
C'est même pas limite, moi je l'ai entendu ça.
Hein. Ah, oui, et c'était ça. Et on était traités vraiment comme des parias où il fallait se tester pour aller dans un endroit où enfin, vraiment c'était une époque... On a l'impression que ça fait longtemps, mais c'est pas vieux, hein, puisque c'était l'après-confinement a été pire, je trouve, que le confinement.
Tout à fait.
Parce que 2021, c'était du délire complet, quoi.
Ah oui,
c'était
oui.
Du délire. Et donc, j'ai commencé à m'exprimer sur les réseaux, et puis un matin, vous vous réveillez, vous ouvrez votre application, et vous voyez que vous avez pris 3-4 000 abonnés en une nuit. Là, vous vous dites, il s'est passé un truc. Et c'est comme ça que ça a commencé. Voilà.
Et en tant que maman et femme de droite, hein, vous assumez pleinement votre engagement. Hein. Comment vivez-vous ce double combat alors que l'on vous reproche souvent d'être une femme qui pense mal?
Alors, je ne sais pas ce qu'ils entendent par mal penser. Mal penser, pour eux, c'est aimer notre pays, c'est vouloir vivre en sécurité, pouvoir vivre aussi de son salaire. Hein, parce qu'on a aujourd'hui des gens qui travaillent, qui ne s'en sortent pas et qui tirent la langue toutes les fins de mois. Et c'est hors de question que ça continue comme ça. Donc moi, mon combat, c'est aussi que mes enfants puissent vivre correctement dans notre pays et qu'à un moment donné ils se disent pas bah moi je vais quitter la France parce que je me sens pas bien dans ce pays. C'est pas le but, voilà. Donc moi, si pour eux mal penser c'est ça, et je suis fière de mal penser dans ce cas là
voilà. oui. Et puis aussi il faut pas oublier aussi que dès que vous dites quelque chose et que dès que vous parlez du drapeau français, ce que vous faites très bien avec les citoyens patriotes, vous êtes un facho en gros.
Oui, nous sommes des fachos. Alors voilà. J'ai vu une définition qui était plutôt pas mal. Il y en a qui disaient que facho ça voulait dire français attaché à ses coutumes, à son histoire et à ses origines.
D'accord.
C'est pas si mal finalement. Hein, voilà. On est quand même en France et aujourd'hui c'est quand même peut-être un des seuls pays où sortir le drapeau c'est un débat. C'est quand même lunaire. Je ne sais pas où on va quand on voit ce qui se passe. Ah non, mais tout ce qui est franchouillard, ça pose problème. Vous voyez, il y a le canon français, je ne sais pas si vous avez entendu, qui récemment s'est retrouvé face à une polémique qui est complètement, complètement stupide, parce que Emma Fourreau a décrété que le canon français, c'était facho. Excusez-nous d'aimer la bonne bouffe et de faire la fête sur du Michel Delpech. Oui, c'est peut-être un peu ringard pour certains, mais on fait de mal à qui, en fait? On fait de mal à qui ? Moi, je me pose la question. Et donc, de toute façon, Emma Fourreau, je pense qu'elle va devoir en répondre devant le tribunal, puisque les patrons du canon français ont décidé de porter plainte pour diffamation. Et ils ont bien raison. Et je les soutiens à 100%.
Parlons de l'élection de Bagayoko pardon, à Saint-Denis, qui a fait beaucoup parler. Hein. Vous avez réagi, Magélia, avec humour et lucidité en disant que vous avez cru aux promesses de Bali Sebalo. Qu'est-ce que cette victoire de LFI révèle, selon vous, de l'état de nos banlieues et de la France d'aujourd'hui ?
Moi, ce qui m'interpelle dans tout ça, puisque M. Bali Bagayoko, c'est certainement quelqu'un qui a de très bonnes idées, qui sera peut-être un très bon maire, et je le souhaite aux Dionysiens. Maintenant, moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est qu'en fait, il a été élu uniquement pour sa couleur, parce que c'est une réalité. Et en fait, je trouve ça hyper raciste de voter pour quelqu'un uniquement sur sa couleur de peau. On doit voter pour lui parce que, ou pour elle, enfin pour une personne, parce qu'elle a des choses à apporter à Saint-Denis.
Pour ses idées, pour son programme.
En attendant, Monsieur Bagayoko est déjà en train de rétro-pédaler. Excusez-moi. Voilà, il est en train de rétro-pédaler.
On fait référence aux polices municipales, à la police municipale.
Il avait promis un désarmement de la police qui ne sera pas fait. On le savait de toute façon. Moi, je savais très bien que ses promesses n'étaient pas du tout faisables. Mais bon, bah voilà, il a endormi peut-être un peu les gens comme ça. Et puis peut-être qu'il pensait pouvoir le faire. C'est possible aussi. Hein. Et entre la réalité et ce qu'on promet, il y a toujours une marge. Les vélos, bah, je pense que les troisièmes vont les attendre un moment. Et puis le tout gratuit, bah finalement il s'est aperçu que c'était pas tout gratuit. Ah oui, parce qu'il faut bien taxer quelqu'un pour payer tout
ça.
Voilà, donc. Et les Dionysiens, bon, j'espère pour eux que Monsieur Bagayoko va leur apporter des choses. Hein. Mais voilà, mais je comprends pas encore qu'on en soit à des polémiques sur voter pour quelqu'un par rapport à sa couleur de peau. Il faut voter pour quelqu'un par rapport à ses compétences. Je ne doute pas qu'il soit, on verra. J'espère pour eux qu'il sera compétent. Voilà. Ce que je peux en dire.
Et qui réfléchira avant de prendre des décisions pour après. Les, voilà.
Oui, parce qu'il nous a fait une Dalida, hein, parole et parole.
Voilà.
C'était un peu ça.
C'est un peu ça que je voulais dire. Juste, Magélia, une petite pause, un petit message pour les auditeurs de Radio Courtoisie.
Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Et surtout, surtout, comme vous venez de l'entendre, n'oubliez pas de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 Boulevard Murat 75 016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours, toujours besoin de vous. Magélia, vous avez récemment dénoncé avec force les dérives de l'éducation à la sexualité dans les écoles. Hein. Un sujet plus qu'important, notamment après les affaires de violences sexuelles en périscolaire. Pourquoi ce sujet vous tient-il tant à cœur et quel message adressez-vous aux parents français qui vous écoutent ?
Alors, moi, ce sujet, il me tient à cœur et il devrait tenir à cœur tout le monde, enfin, normalement, tout le monde de normalement constitué. Il faut avoir conscience qu'aujourd'hui, les pédophiles, ils sont partout. Ils sont vraiment partout. Ils peuvent être dans le cercle privé, familial, dans le cercle scolaire. On l'a vu notamment effectivement avec le scandale des périscolaires qui a complètement éclaté. Et on a quand même un maire qui aujourd'hui est Emmanuel Grégoire, un maire de Paris, qui était au courant depuis 2015 et qui n'est pas intervenu. Moi, je me demande comment c'est possible que les gens aient voté pour lui.
Non,
bref.
Et
d'ailleurs, au passage, j'ai pris mes tickets de métro, ils ont augmenté. Hein, là. Voilà, hein, une petite mesure qu'il a mis en place qui est passée comme ça. Bref, ça c'était le petit aparté. J'étais présente, moi, le 4 avril, place de la République, pour le rassemblement contre la pédocriminalité. On était nombreux, mais il aurait fallu qu'il y ait beaucoup plus de monde. Moi, j'invite les parents aujourd'hui à être vigilants sur un changement de comportement. Peut-être de leurs enfants, parce que souvent c'est ça. Il y a des enfants qui ne vont pas savoir l'exprimer, mais qui vont avoir un changement de comportement. Et s'il y a un changement de comportement, soyez vigilants, c'est qu'il y a quelque chose derrière. N'hésitez pas à emmener vos enfants consulter, à peut-être les faire examiner, parce que souvent, malheureusement, quand les enfants ont subi des choses, il y a des lésions. Et c'est terrible de le dire, mais il faut le faire. Et aujourd'hui, moi, j'ai un problème avec le programme EVRAS. Parce que... j'ai l'impression qu'ils veulent un peu banaliser tout ça, en faisant croire aux enfants que c'est normal. Alors qu'on leur parle de consentement, qu'on leur explique que c'est pas normal de se faire toucher, c'est tout à fait normal. Qu'on leur explique les positions sexuelles, qu'on leur explique qu'ils peuvent se toucher et qu'ils peuvent avoir du polyamour, c'est complètement lunaire. On s'adresse à des enfants. Leur expliquer qu'effectivement, tonton Marcel, il n'a pas le droit de toucher. Mmh. Ça, c'est hyper important parce qu'il y a des enfants qui le subissent dans leur cercle familial et qui n'osent pas le dire. Et qui surtout le subissent depuis tout petit et qui pensent que c'est comme ça chez tout le monde. Mmh. Voilà, même si au fond d'eux, je pense que leur corps leur dit que c'est pas normal, mais comment l'exprimer ? Donc moi j'invite voilà les parents à être très vigilants, à ne faire confiance à personne, parce qu'aujourd'hui on est dans une société où on pourrait donner le bon Dieu à certains et en fait c'est les pires. Voilà, et surtout à ce que la parole se libère et à ce que la honte change de camp. Parce que c'est pas aux victimes d'avoir honte. Moi, j'étais présente au rassemblement le 4 avril, parce que je veux dire aux victimes que c'est pas elles qui doivent se cacher. C'est les pédophiles qui doivent se cacher, c'est eux qui doivent avoir honte de ce qu'ils font. Et ça ne tiendrait qu'à moi, ils auraient leur tête qui roulerait sur le pervers. Mais enfin, voilà, ça c'est un autre sujet.
Vous n'aimez pas pour le dire sur les réseaux.
Voilà, ouais.
On parle beaucoup aussi de l'islamisme qui avance et de la farce qui nous mène au chaos. D'ailleurs, comme vous l'avez signalé récemment, souligné, comment expliquez-vous que certains refusent encore de voir cette réalité alors que des villes entières changent de visage ?
Je pense que certains refusent parce que ça fait peur d'admettre ça. J'ai parlé avec un de mes amis qui a son conjoint qui est iranien, d'accord ? Et si on ne bouge pas, nous allons être l'Iran. On va finir comme en Iran. Parce que quand on remonte 40, 50 ans, 70 ans en arrière, l'Iran, il vivait comme nous. C'était des gens qui vivaient de façon tout à fait normale. Les femmes n'étaient pas plus voilées que ça. Et aujourd'hui, ils en sont à se faire tuer dans la rue parce qu'ils veulent se libérer de cette dictature. Parce que c'est ni plus ni moins qu'une dictature. Et aujourd'hui, on a quand même des gens en France qui manifestent pour soutenir cette dictature. Je ne sais pas si on se rend compte. Donc, on a le peuple qui essaye de se libérer. Et puis il y a cette espèce de pseudo-État qui veut les maintenir là-dedans. Et moi, aujourd'hui, j'ai peur aussi, parce que je vois les prémices de tout ça qui s'installe, parce qu'on a un islamisme radical qui s'installe partout, partout. On a un islamisme qui devient politique, et c'est là où c'est dangereux.
Bah, c'est ça.
Parce qu'ils sont en train d'essayer de matrixer les cerveaux, et il y a des gens qui ne veulent pas le voir, parce que ça fait peur, ou il y a des gens qui ne veulent pas le voir, parce qu'ils ont peur d'être traités de racistes s'ils mettent le doigt dessus. Alors que, jusqu'à preuve du contraire, l'islam n'est pas une race, d'accord ? L'islam, c'est une doctrine, donc on a le droit de le critiquer. Le racisme, certes, c'est un délit. Parler de l'islam, je suis désolée, mais moi, personne ne m'en empêchera. Et franchement, moi, ça me fait extrêmement peur quand je vois effectivement des villes grand remplacées comme Roubaix, par exemple, et puis bien d'autres où être blanc devient un problème, où être blanc devient dangereux. C'est inadmissible.
Et puis pour être très cash, avouons que certains ne se gênent pas pour critiquer le catholicisme aussi.
Oui. Ah bah, par contre, alors quand il y a des églises qui sont profanées, des tombes qui sont profanées, comme ça a été le cas il n'y a pas longtemps également, ils ont été jusqu'à casser un cercueil, voler les bijoux d'une dame qui était enterrée. Mm-hmm. Je ne sais plus dans quelle commune, enfin bref. Par contre, alors là, personne ne se...
Ah, c'est pour ça que je le souviens.
Oui, voilà. mais alors, quand il y a trois bouts de cochon devant une mosquée, ça fait tous les gros titres. Pour moi, les lieux de culte doivent tous être respectés. Absolument. Et je ne vois pas pourquoi il y a ce deux poids, deux mesures en fonction d'eux.
Et vous défendez avec passion, Magélia, l'identité française, contre, mais ça je crois qu'on l'a compris, contre son effacement. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier d'être française aujourd'hui et qu'est-ce qui vous inquiète le plus pour nos enfants ?
Moi, ce qui me rend fier d'être française, c'est... Enfin, comment dire, c'est le fait de, par exemple, de savoir s'exprimer sans dire un wesh, voilà, frérot à toutes les phrases, déjà. C'est pas que ça, en fait. L'identité française, c'est un tout, c'est un art de vivre, c'est culinaire, c'est patrimonial, c'est tout ça, en fait. Et c'est tout ça que j'ai pas envie de perdre. Moi, je veux pas que mes enfants, ils vivent dans une société où ils ont honte d'être français, où ils vont devoir s'adapter, alors que c'est pas à eux de s'adapter.
Bah, c'est ça. C'est ça, en fait. Il y a aussi du mimétisme aussi.
Malheureusement, on a beaucoup d'enfants. Moi, j'ai le cas avec des enfants d'amis autour de moi qui ont tendance à prendre ces tics de langage parce qu'ils l'entendent. C'est difficile pour les parents d'essayer de les reprendre là-dessus. Et tout ça, ça fait partie de l'effacement de la culture française, finalement. Moi, j'ai eu, je ne vais pas mentir, quand j'avais 16-17 ans, j'ai vécu en cité d'HLM jusqu'à l'âge de 18-19 ans, j'avais tendance à parler un peu le wesh de l'époque. Alors, c'était pas forcément, on ne disait pas wesh, mais c'était une façon de parler aussi. Et je me suis corrigée, mais c'est normal, quand on est jeune, on a besoin d'appartenir à un groupe. Et là où le bas blesse, c'est que le groupe, il y a un moment donné, ne va plus avoir des racines françaises. Et donc, comment ça va se passer par rapport à notre pays,
c'est
en
ça
fait.
Que, oui.
Voilà. Alors que moi, j'estime que ça n'est pas aux Français de s'adapter. C'est aux personnes qui arrivent dans notre pays, qui sont les bienvenues si elles n'ont pas de mauvaises intentions, de s'adapter, tout simplement. J'ai vu quand même une vidéo TikTok où il y a une nana qui est enseignante dans une école qui dit, on lui pose la question, elle dit, mais si vous avez un petit garçon, par exemple, camerounais qui arrive, c'est à lui de s'adapter. Elle dit, ah non, 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 c'est à la classe de s'adapter. Pardon ? Mais alors, comment ça va se passer ? Donc, va falloir que tous les élèves apprennent la langue de chaque élève qui vient de l'étranger chaque fois ? Non, je suis désolée, c'est à l'étranger qui arrive dans un pays et dans n'importe quel pays, c'est valable, c'est à l'étranger de s'adapter. Il a le droit de ne pas aimer. Ça, c'est autre chose. Mais dans ce cas-là, on est libre de partir dans un pays qui nous correspond davantage, tout simplement.
Et sur TikTok, Instagram ou X, vous parvenez à toucher un public très large, hein, y compris des jeunes, justement. Quel est votre secret pour, entre guillemets, hein, pour parler vrai sans jamais tomber dans la caricature que l'on veut nous imposer, j'allais dire ?
Je sais pas, je suis moi-même, en fait, comme vous me voyez là, sur les réseaux, je suis la même. Quand je fais mes vidéos, je les fais en une fois. Je vais pas m'amuser à recouper, machin. Même, enfin, j'ai envie d'être moi-même et vrai, en fait. Donc, je fais mes vidéos en une fois. Et puis, même si je bafouille un peu, c'est pas grave. Moi, mon but, c'est... Après, je manie très bien l'ironie. Donc, c'est vrai que les gens aiment bien aussi ce côté ironique, qui passe très bien. Mais en fait, ce que je dis, je le ressens au fond de mon cœur. Et si je le dis, c'est que j'ai besoin de le dire aussi. Et je sais qu'il y a des gens qui pensent comme ça, mais qui n'osent peut-être pas le dire aussi. Et puis, des fois, il y a des gens aussi qui ne sont pas à l'aise de le dire. Ça, voilà, on est tous un peu différents. Donc, peut-être que les gens me suivent parce que je suis nature, peut-être. C'est ce qui fait que...
Ah bah, c'est pas peut-être.
Je pense.
Moi, je le dis clairement, c'est parce que vous êtes nature.
Oui. Bon, en tout cas, moi, j'essaye d'être moi-même le plus possible et d'être authentique. Tout simplement.
Et si vous pouviez justement adresser un message direct aux auditeurs de Radio Courtoisie, ces Français donc attachés, je bafouille, dis donc, à la courtoisie, à la vérité et à leur pays, que leur diriez-vous pour les encourager dans ce combat quotidien ?
Moi, j'ai vraiment... le message que je vais délivrer, c'est de dire aux gens, mais... libérer la parole. Parce qu'on est une poignée à s'exprimer sur les réseaux, mais demain, si on est 500 000, 700 000, 1 million à s'exprimer comme ça, il y a plein de choses qui vont se passer. C'est-à-dire que déjà, là-haut, là, les élites qui se prennent pour Dieu le Père ne pourront plus nous ignorer parce qu'on fera trop de bruit pour eux. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'ils veulent essayer de verrouiller un peu les réseaux. La pseudo-loi pour protéger les mineurs de moins de 15 ans, on sait exactement ce que ça veut dire. Il va falloir s'identifier et dès qu'ils vont pouvoir nous couper le sifflet, ils vont le faire. On s'y attend. On sait comment ça va se passer.
Vous la connaissez, j'en parlais, je vous coupe. Pardon, j'en parlais d'ailleurs avec qui en parle très bien avec Momochi.
Voilà. Ouais, non, mais on le sait que c'est quelque chose pour créer une base de données et puis pour surtout nous ficher un petit peu. C'est une réalité sous couvert de soi-disant protéger les mineurs. Et alors déjà, pour qui se prennent-ils pour se substituer au rôle des parents, déjà pour commencer. Après, en soi, sur le papier, ça paraît très propre, très bien, parce que c'est vrai que les réseaux peuvent générer des choses un peu dangereuses. C'est difficile de contrôler tout ça. Maintenant... est-ce que c'est pas aux parents de limiter leurs gosses là-dessus ? C'est ça, hein, déjà, la vraie question, c'est une question d'éducation. Et ça, c'est encore un autre problème. Donc moi, j'ai envie de dire aux gens, libérez-vous, parlez sur les réseaux. Même si vous pensez que vous vous exprimez pas bien, que vous dites « ouais, mais je vais avoir l'air ridicule, on s'en fiche », plus on sera nombreux à parler, plus on pourra libérer la parole. Et bien évidemment, nous les citoyens patriotes, on est là aussi pour vous aider à ça. Donc encore une fois, sur notre site, vous allez pouvoir postuler pour être soit militant, soit ambassadeur. Vous pouvez juste être adhérent, vous pouvez aussi faire un don, vous pouvez aller sur la boutique. parce que nous, on a besoin de monde, on a besoin vraiment d'être entendu, et on ne pourra pas le faire sans vous, en fait. Parce que nous, on n'est qu'une poignée à s'exprimer. Alors oui, on a un peu d'audience, oui, on nous voit, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut que monsieur et madame tout le monde puissent s'exprimer. N'hésitez pas même à vous exprimer sur votre vie quotidienne. En ce moment, on a le carburant qui explose. On a la nourriture qui va... Enfin, bientôt, manger, ça va devenir un luxe. Je sais pas si on se rend compte. Et ça, il faut que les gens s'expriment là-dessus. Parce que c'est inadmissible de bosser et de ne pas pouvoir vivre des fruits de son travail à la fin du mois. C'est inadmissible.
Et puis, je rappelle aussi que les citoyens patriotes, vous organisez aussi des rassemblements avec le drapeau français.
Bien sûr. Alors, ça devient de plus en plus compliqué. Ça devient compliqué parce que maintenant, on est attendu. Je pense que la première fois, ils ne nous attendaient pas. Donc, ils ne pensaient pas qu'il y aurait un succès. La première fois, c'était Place de la République à Paris. Hein, on a rassemblé 5000 personnes. Nos autres rassemblements ont été plus compliqués parce que, évidemment, on a les anti-France. Parce que moi, je ne me résoudrai jamais à les appeler antifa puisque les nouveaux fascistes, c'est eux. Parce qu'ils ne supportent pas qu'on ne pense pas comme eux. Hein, cette espèce de secte-là qui veut matrixer les cerveaux de tout le monde. Hein,
rappelons la personne
avec Mélenchon, la France insoumise tous ces sbires.
La personne qui a failli vous balancer quand même une chaise.
Oui, à Lille où on s'est fait agresser. Hein. Heureusement, il y avait mon collègue Labbé qui a intercepté et ils lui ont sauté dessus à 5. Hein, parce que ce sont des gros lâches et en plus ils étaient cagoulés, bien évidemment, parce que ça n'assume pas. Donc maintenant on est attendu. En fait, on est attendu par cette espèce de cohorte de gens qui n'ont certainement rien d'autre à faire. Et quand on les regarde, on sait, ce sont des petits blancs de bonne famille. C'est même pas les gens avec des origines. Parce que dans nos rassemblements, il y a des gens avec des origines qui sont présents avec le drapeau français, qui remercient la France pour ce que la France a fait pour eux.
On le voit bien sur
Et vidéo. Ceux qui vraiment viennent nous attaquer, nous insulter, ce sont les petits blancs. Français, de papa-maman, parce que souvent c'est des fils de bonne famille, hein, on l'a vu avec la jeune garde, ceux qui ont tué le jeune Quentin, c'est des fils de magistrats, etc. quand même, hein, c'est pas... Et ce sont des gens qui s'inventent, qui se cherchent des combats, et qui se veulent prolo alors qu'ils le sont pas plus que ça. Voilà. Moi, je suis issue d'une famille très modeste, hein, d'une maman femme de ménage. Donc, ils vont pas m'apprendre la vie à moi. Alors qu'ils ont eu papa-maman qui leur a donné de l'argent de poche toute leur vie. Et ils viennent dire « Oui, c'est pas beau, le drapeau français !» Alors qu'ils sont français et privilégiés. Ça me fait un peu marrer, en fait. Voilà.
Et vous en êtes même arrivé, d'ailleurs, à changer récemment... vous avez changé récemment le lieu. Hein, vous deviez, à la base, faire un rassemblement.
Alors, on était... À la base, on devait faire un rassemblement sur Nantes. Donc ça, c'était là, au mois de, au mois de mars. Hein, c'est vraiment pas vieux du tout. Et on a reçu des menaces de mort très sérieuses. Alors, nous, on les prenait pas spécialement au sérieux. Mais c'est la préfecture de police de Nantes qui nous a conseillé de changer de lieu. Parce que vraiment, ils n'étaient pas sûrs de pouvoir assurer notre sécurité. Juste parce qu'on sort le drapeau français. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point c'est tellement lunaire. On a fait notre rassemblement à Angers. Voilà. Mais on a été mis dans un lieu un peu excentré à Angers.
Un square, je crois.
On était au square Jeanne d'Arc. Alors, déjà, c'est un square apparemment qui est connoté, où ils mettent tous les gens d'extrême droite, alors que nous, on n'est pas d'extrême droite. On est d'extrême France. Hein. On n'est même pas un parti politique. On n'est pas politisé. On le deviendra certainement, mais pour l'instant, on n'est pas politisé. Et on a été mis un peu de côté. Mais après, je ne vais pas en vouloir à la préfecture de police, parce que je pense que c'était pour eux la façon la plus simple d'assurer notre sécurité. Parce qu'effectivement, il y avait tout un cordon qui a dû nous protéger de ces espèces de personnes qui se trimballent avec des 8-6 et qui se disent soi-disant de la bonne parole, des fils à papa-maman qui n'ont rien d'autre à faire de leur vie. Voilà.
Et pour terminer sur une note d'espoir, quel est le petit signe qui vous fait dire malgré tout que la France se réveille ?
Le petit signe qui me fait dire que la France se réveille, c'est que nous, on reçoit tous les jours des messages de gens qui nous disent « Merci, grâce à vous, j'ai ouvert les yeux. Merci, merci de vos rassemblements. Merci pour ce que vous faites. » On voit que les gens commencent à basculer. Ils en ont vraiment ras-le-bol. On le voit d'ailleurs avec des mairies qui sont passées à droite. Il y a des mairies qui étaient historiquement à gauche et qui sont passées à droite. Donc, on a des gens vraiment qui ne peuvent plus, qui n'encaissent plus, qui en ont marre. Donc, effectivement... Je me dis qu'il y a un réveil. Est-ce que ça va être un réveil national ? Est-ce que ça va être un réveil massif ? J'espère. Je l'espère, en tout cas. Vraiment. C'est ce que je souhaite.
Bah, en tout cas, on a bien compris que vous faites beaucoup de choses, enfin beaucoup de choses se mettent plutôt en place pour parler français quant aux citoyens patriotes.
Exactement. Notre association, elle n'est pas là pour cliver, elle n'est pas là pour exclure. Je veux dire, tous ceux qui aiment le drapeau français, qui aiment notre pays, qui veulent le préserver, ils sont les bienvenus en fait. Mmh. Vraiment, nous on n'exclut personne. Et je vous dis, dans les gens qui se disent antifa, qui sont pour moi des anti-France, il y avait plus de diversité chez nous que chez eux, hein. Donc c'est quand même assez drôle de voir ça. Et puis bah, de toute façon, mais en fait en soi, j'arrive même pas à leur en vouloir non plus, parce que ce sont beaucoup de jeunes qui se sont fait retourner le cerveau. Beaucoup de très jeunes, hein, quand on a 18-20 ans, on se cherche des combats en fait. C'est ça le truc. Sauf que ils se rendent pas compte, mais ils virent dans la violence en plus. C'est ça le truc. Et on peut même pas discuter. Moi j'ai essayé de discuter, notamment à Lille avant de prendre la chaise, j'ai essayé de discuter. Et c'était direct des insultes et de la violence. Donc,
Mais bon, ça aussi, on l'a vu sur la vidéo.
C'est ça, exactement.
Ça passe très vite, Magélia. Hein, oui. Donc malheureusement, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, en tout cas, d'avoir été avec nous et d'avoir partagé avec tant de franchise et de lucidité votre regard sur la France d'aujourd'hui.
Merci à vous de m'avoir reçu, en tout cas.
En tout cas, je rappelle que... Bon, en tout cas, vous nous avez rappelé plutôt avec courage et sans détour hein, que dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas n'est pas seulement un acte de liberté, mais aussi un service rendu à notre pays.
Tout à fait.
Et en tant que membre engagé du collectif Les Citoyens Patriotes, hein, vous incarnez cette volonté de défendre, hein, je crois qu'on l'a compris, notre identité, nos valeurs et notre héritage face aux défis que nous connaissons tous. Donc, chers auditeurs, n'oublions pas que le réveil de la France passe par des voix comme la vôtre, hein, des voix libres, déterminées et attachées à la vérité. Donc, encore merci.
Et merci à vous, Jean-Étienne.
Je vous en prie. Je vous invite tous à suivre Magélia sur les réseaux et à soutenir l'action des citoyens patriotes. Et surtout, chers auditeurs, n'oubliez pas de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 Boulevard Murat, 75-016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours, toujours besoin de vous. À mercredi prochain et bonne semaine.